ラフトレ
Bonjour et bienvenue dans l'émission 44 de Jaf Tamer sur RLP, l'émission de l'association Équité Parentale avec Stéphane depuis le Périgord. Aujourd'hui, la seconde partie de l'émission avec Dominique Masse, psychologue, experte à la cour d'appel de Saint-Denis à La Réunion, où nous verrons, cette fois-ci, les effets des violences sur les enfants, l'importance de ne pas avoir de conflit devant les enfants, une partie sur l'actualité avec notamment l'affaire Duhamel, etc., l'égalité homme-femme, les manques de moyens pour les expertises et une petite conclusion. Tout ceci, bien évidemment, après une nouvelle intervention de notre pédopsychiatre favori, Monsieur Thierry Lavergne. Ne bougez pas, c'est après ça.
RLP. Radio Libre en Périgord.
Thierry Lavergne, aujourd'hui, notre pédopsychiatre et psychanalyste préféré sur RLP. Monsieur Lavergne, vous allez bien ?
Oui, je vais bien. Bonjour Stéphane, bonjour à tout le monde.
Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, une petite question technique. Quelle est la différence entre la préadolescence et l'adolescence ?
La préadolescence, c'est un petit peu avant l'adolescence, tout simplement.
Oui.
C'est-à-dire qu'entre le moment de l'enfance, entre 6 et 10, 11 ans, on va dire, hein, on a une période qu'on appelle la période de latence, c'est-à-dire que à ce moment-là, les enfants sont sages comme des images en général, bons élèves, appliqués, ils soulignent leurs cours à l'école comme on le leur demande, et toute leur pulsion, on va dire, libidinale, c'est-à-dire leurs appétits pour tout ce qui est étrange et qui n'est pas l'école, sont mis un peu en latence. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça la période de latence. C'est un terme qu'avait utilisé Freud à l'époque pour parler de cette période. Et la préadolescence, eh ben, c'est le sortir, c'est quand l'enfant sort de cette période et commence à rentrer vers l'adolescence. Mais ça peut se produire bien avant, enfin ça se produit vers 10-11 ans, hein, voilà, mais ça peut se produire bien avant l'adolescence physique, bien avant les règles, ou bien avant le changement de corps, ou bien avant voilà, la réelle puberté. Et ça prépare en fait l'adolescence et l'entrée dans le monde de l'adolescence, où là c'est un monde très turbulent, avec des oppositions, des conflits, chercher des soutiens chez les copains, dénigrer les parents qui évidemment n'ont pas su faire comme il fallait, etc., etc. Enfin, tous les processus.
D'accord, donc au passage, dénigrer les parents, c'est normal pour un adolescent.
Ah ben oui, après, faut que le parent supporte, hein. C'est ça surtout. Mais oui.
Ok. Bien sûr. D'accord, très bien, merci.
À bientôt, au revoir Stéphane.
RLP. Radio Libre en Périgord.
Alors, Madame Dominique Masse, j'aimerais maintenant globaliser et généraliser. De par votre expérience, la vôtre, celle de vos collègues, de ce que vous discutez entre vous lors de vos conférences, de vos séminaires et autres, de vos pratiques. En fait, quels sont les effets des violences familiales sur les enfants ? En quoi est-ce que ça les gêne dans leur construction ? Comment est-ce qu'on les retrouve plus tard ? Mais pourquoi, de manière générale, il est important de protéger les enfants des violences ?
Parce que ça crée des dégâts psychiques très importants,
lesquels ?
Très graves. Ça crée déjà un doute total en ses perceptions. Là, j'ai plein d'adultes qui me disent, qui doutent de leur perception, qui doutent de ce qu'ils pensent, parce que le doute, c'était la façon de survivre à l'effroyable qu'ils vivaient. Style, le doute peut aller même se dire, j'ai fait un cauchemar. C'est un peu ce qu'elles disent, les victimes, en général.
Donc, ils remettaient en cause la réalité, et après, ça
voilà,
en cause
ça.
Leur perception
surtout,
de l'environnement. D'accord.
C'est ça. Et surtout, remise en cause d'eux-mêmes, de leur petit petite voix qui est énorme, qui est fondamentale, remise en cause de ce que leur sens leur dit, remise en cause de ce que leur cerveau leur dit, remise en cause de la confiance totale. Le trauma, c'est la perte de la confiance en l'humain. Tous les piliers, on vit dans un monde, dans une humanité qui nous a appris à faire confiance. Je peux pas passer ma vie à suspecter un tel, une telle et un tel. On fait confiance. On apprend à l'enfant à faire confiance et à respecter les grandes personnes et surtout à ne pas mentir. Ok, d'accord. Mais le trauma, il sabote la confiance. C'est-à-dire que le monde est devenu une menace permanente. Un univers dangereux, on ne peut plus faire confiance ni à ce qu'on ressent soi-même, ni aux autres. C'est quand même très compliqué pour avancer dans la vie.
Non, ce sont des forces profondes qu'il va falloir surmonter ensuite, bien sûr. Oui.
Voilà, c'est ça.
D'accord. Donc en fait, pour revenir sur la partie soigner, ça veut dire instaurer de la confiance en soi dans l'enfant, lui montrer qu'il réussit, lui donner de l'estime de soi.
Oui, mais ça, c'est un travail énorme parce que c'est lui qui va
reconstruire.
Ça. C'est un travail de réappropriation de chaque personne. C'est pas parce que le thérapeute ou va lui dire écoute, tu n'es pas coupable, ça c'est un discours rationnel que tout le monde est capable de tenir. Mais ça marche pas. La culpabilité, elle est imprimée profondément au plus profond de l'être. Et donc c'est seulement des expériences rassurantes, réconfortantes, sécurisantes qui vont pouvoir faire taire cette voix.
Alors, ce qui s'est passé, un événement unique qui a été distant dans le temps, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut en reparler à l'enfant ou il faut qu'il oublie ?
Ça dépend. Je pense que déjà, il faut en parler quand ça a lieu.
Bien sûr.
Quand ça a lieu, ne pas le banaliser, ne pas minimiser, essayer de mettre des mots sur ce qu'on pense, qu'il a ressenti, comment il a pu ressentir les choses, sa peur, ses questions, etc. De façon à ce qu'il se sente compris à 100%, peut-être pas 100%, c'est jamais réel, mais un maximum. Et donc, il se sente sécurisé puisque quelqu'un comprend un peu, peut partager ses questions et sa souffrance et ses peurs. Et puis après, alors on parle plus tard, je pense que Ça dépend de quel fait. Peut-être plus tard faire des liens en disant peut-être que ça à telle occasion tu pourrais être en difficulté ou ça pourrait réveiller telle chose ou ça pourrait revenir. Sachant que par exemple pour les agressions sexuelles, il y a certains épisodes de la vie qui ramènent à la mémoire le trauma initial. La puberté, les premières relations sexuelles, la grossesse ou d'autres éléments, un parfum, des choses comme ça.
Effectivement, aussi autre chose qui nous concernera nous au niveau associatif, pourquoi est-ce qu'il est néfaste d'avoir un conflit parental devant l'enfant lorsque les parents se disputent, se fâchent, se crient dessus et se séparent et puis après commencent à se critiquer l'un l'autre, l'enfant est au milieu, il sait plus sur quel pied danser. On sait que les conflits parentaux sont parfois des causes de placement d'ailleurs, mais expliquez-nous quels sont les effets d'un enfant qui a été confronté à des parents qui se sont beaucoup battus en se séparant. Qu'est-ce que ça peut lui faire sur le long terme ?
Je pense que déjà au moment il assiste à quelque chose qui ne le concerne pas. Ce sont des conflits de grandes personnes. Lui, il est un enfant. Il n'a pas les outils psychiques, il n'a pas le développement affectif, l'assise, pour assister impuissant à tout cela. Les enfants sont des victimes, hein, collatérales, mais victimes parce qu'en fait, ils sont impuissants, ils sont pas armés psychologiquement pour vivre de telles tensions. En plus, ces tensions concernent deux personnes vitales et fondamentales pour lui, qui sont comme ses racines, comme ses piliers, sur lesquels il se construit, qui sont ces deux références vitales, humaines, énormes. Donc il est forcément malmené, maltraité, il souffre. Et si en plus il s'avère que Bon, quelquefois, il y a des choses qui échappent devant l'enfant. On peut récupérer la chose en disant, écoute, on s'y est mal pris, on n'aurait jamais dû faire comme ça, reprendre des choses avec lui. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Mais si ça ne suffit pas, et si ça va très très loin dans les conflits et la bataille, parce que c'est une bataille pour lui, il va développer une grande détresse qui va manifester sous différentes formes. Ça peut être de l'hyperactivité pour chasser les mauvaises pensées, ça peut être un repli sur lui-même, ça peut être des rêveries dans lesquelles on ne sait pas trop où il est, ça peut être des troubles alimentaires. Malheureusement, il a plusieurs symptômes à mettre en œuvre pour alerter sur ce qu'il vit.
Donc ça, ce sont des signaux d'alerte, effectivement.
Oui.
Mais ensuite, oui, au niveau de l'adolescence et de la construction en tant qu'adulte, il y a des conséquences ?
Tout dépend de l'issue du conflit. Si c'est un conflit qui va jusqu'à quelquefois, on va dire, une exclusion d'une des deux images parentales, c'est compliqué. Après, tout dépend aussi de la place. S'il a été instrumentalisé par une partie, c'est dramatique aussi. Il va lui falloir beaucoup de temps pour se rendre compte de ce qui s'est passé et retrouver, y voir un peu plus clair et démêler les fils. Et tout ça, c'est quelque chose qui a priori ne le concernait pas.
Je ne peux m'empêcher, en vous écoutant, de penser à l'actualité. Il y a notamment l'affaire Epstein. Il y a également l'affaire Duhamel qui est apparue sur Paris, ce qui nous permettra de dire au passage que les enfants, garçons ou filles, sont égaux devant les violences, hein, mine de rien.
Oui, tout à fait.
Parce que là, si j'ai bien compris, on a quand même un beau-père d'autorité qui allait dire au revoir à l'enfant de son nouvelle compagne qui avait 13 ans tous les soirs, puis qui lui demandait une petite gâterie avant de se coucher, hein, si j'ai cru comprendre, durant des années. Alors, ce genre de choses, en fait, moi j'ai deux pensées qui me traversent lorsque je les entends. C'est un, ce gamin, comment est-ce qu'il a fait pour se reconstruire ensuite alors qu'il n'a pas été suivi? Et deux, comment se fait-il qu'il y ait autant de force en présence pour défendre ce genre de choses?
Alors je pense que c'est très complexe de répondre à cette question. C'est très complexe. Parce que le voile sur, on va dire l'inceste, est levé depuis des années, depuis les années 80. En tout cas par les romancières, par les artistes, par le MLF. Après, le voile sur les agressions sur jeunes garçons, adolescents, jeunes hommes, a été très compliqué parce que dénouer cette parole-là, vu les représentations sociales sur c'est quoi être un garçon, c'était très compliqué à aborder. Mais c'est venu, il y a eu aussi, avant l'affaire Duhamel, il y a eu l'affaire, comment il s'appelle, de Villiers. C'était un inceste frère-frère. Oui, il a même sorti un bouquin et j'en parle dans mon livre, hein, qui s'appelle Tais-toi et pardonne, Flammarion 2011. Ce jeune homme, j'en parle pas mal dans mon livre, il a eu un sacré parcours du combattant et je pense pas que ça soit terminé comme il aurait souhaité, quoi. Et alors, je pense que pendant très longtemps, on n'a pas voulu prendre en compte la gravité des conséquences psychologiques. On a banalisé, on a, je sais pas. Après, c'est quelque chose qui concerne la famille. Et longtemps, la famille, c'était quelque chose où c'était une sphère dans laquelle personne ne rentrait. Il y a eu aussi pendant très longtemps, du côté des psychiatres et de la psychanalyse, la théorie du fantasme. Moi, j'ai eu des tas de patients dans mon cabinet qui ont consulté des années des médecins psychiatres qui leur disaient oui, c'est des fantasmes. Donc, qui n'écoutaient pas leurs plaintes, qui parlaient de faits réels.
Voilà, quand nous sommes bien d'accord, aller voir en tant que beau-père un gamin de 13 ans, c'est un enfant, c'est pas bien.
Oui.
Ensuite, aller voir des gamines de 13-14 ans pour leur promettre du mannequinat et en fait les transformer en outils de chantage sur des célébrités, c'est pas bien non plus. Alors pourquoi est-ce que on défend ceci? Pourquoi dans la société, est-ce que vous avez comme moi identifié des forces qui essaient de faire baisser l'âge de consentement, de minimiser les responsabilités des auteurs de ce genre d'actes et en fait de pousser pour faire reculer ces barrières? Est-ce que vous en avez vous aussi identifié et pourquoi et qui?
Non, et je pense que si c'est le cas, je pense que la fameuse question du consentement, il n'y a pas de consentement possible chez un enfant, chez un ado.
Hein.
Il faut. Alors là, j'en parle aussi dans mon livre. Il y a des mots qui ne sont pas appropriés. Le mot consentement chez un enfant n'a aucun sens. Tout adulte en face d'un enfant est en position de pouvoir, domination, autorité.
Tout à fait. Devant un enfant qui est en train de se construire et qui n'a pas les outils intellectuels pour maîtriser et gérer
voilà.
Ce qui se passe.
Le mot consentement est une horreur.
Non, je comprends.
C'est une horreur.
Je comprends. Il fallait pas
l'utiliser. Le mot consentement signifie égalité de statut. On peut parler de consentement entre des relations entre un homme et une femme.
Voilà, des personnes construites qui comprennent ce qu'elles font.
Voilà.
Bien sûr.
Voilà, tout à fait. Mais là, à partir du moment où c'est un enfant et une grande personne, où est le consentement? C'est quoi ce mot? Et ce mot, ça, c'est un mot qui profite, excusez-moi, entre guillemets, aux agresseurs.
Mais voilà, tout à fait. Donc, quelles sont ces forces qui défendent les agresseurs, en fait?
Alors là, je ne sais pas. Je pense que il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, partout, dans toutes les classes sociales, pas seulement dans les classes défavorisées, comme on aimerait-on le penser, et que si c'est dans toutes les classes sociales, ça peut être dans les hautes classes sociales, et donc dans les sphères du pouvoir, forcément. Forcément, c'est la chose la mieux répartie autour de nous. C'est un peu dur là, hein, mais...
Oui, parce que l'un de vos collègues m'a dit que finalement, les actes d'inceste et de pédophilie étaient quand même beaucoup moins répandus que ce qu'on voulait le faire croire. C'était quand même des épiphénomènes, aux conséquences extrêmement graves, si vous voulez. Mais ça ne touchait pas absolument tout le monde de manière dramatique. Enfin, j'ai entendu ça, hein, c'est Monsieur Laverne qui m'a dit ça, je crois. Donc, on en trouve effectivement partout, mais il ne faut pas penser que tous nos voisins sont en train de violer leurs gosses, par exemple. Hein,
Non, pas tous. Mais en tout cas, je pense que c'est pas une histoire de classe sociale.
Non, ça je suis d'accord. Alors, dites-moi, dans l'environnement dans lequel vous étiez, donc on va dire assise, correctionnelle, tout ça, avez-vous l'impression que l'égalité homme-femme a été respectée autant dans le droit de la défense que de celui des accusés, c'est-à-dire un homme et une femme sera-t-il traité de la même manière en tant que victime, en tant qu'agresseur?
Alors là, c'est une bonne question. J'ai pas eu de... Je repense aux assises, puisque c'était le plus gros de mon travail. Je cherche, j'ai pas eu d'alerte là-dessus.
D'accord, c'est une bonne nouvelle.
Oui, j'ai pas eu d'alerte.
On en a beaucoup au niveau du JAF, nous, mais on a aussi, on se rend compte.
Ah, bah oui, mais au niveau du JAF.
Mais par contre, on se rend compte que plus on monte, plus on arrive,
oui,
c'est de la cour d'appel et autres, et plus en fait, plus c'est pro, plus c'est neutre, plus c'est travaillé, et en fait, tout ce qui nous remonte beaucoup, c'est les premières instances.
D'accord. Après, si vous avez des remontées au niveau des JAF, je suis pas très étonnée, parce que Parce que là, je pense qu'il y a des représentations sociales, culturelles, énormes, qui sont, on va dire, remises en cause par des associations de pères, essentiellement. C'est eux qui ont fait le gros boulot suite à des situations conflictuelles par rapport pour des gardes d'enfants ou des choses comme ça. Donc, je pense que si ces associations ont existé, c'est bien qu'il y avait de réels soucis et de réels problèmes. Et de réelles difficultés à concevoir qu'un père puisse s'occuper d'un enfant et le faire grandir. Ça, c'est tout le problème du fameux instinct maternel.
C'est tout le problème de ce fameux
instinct maternel. La femme qui serait investie de cette fonction maternelle, maternant, qui elle seule pourrait être la mieux placée pour avoir la garde de l'enfant, en fait.
Je suppose que vous, durant votre parcours de plusieurs dizaines d'années, vous devez vous aussi peut-être vous rendre compte que les pères d'aujourd'hui ne sont pas forcément les mêmes que ceux d'hier.
Mais bien sûr, mais tout à fait, tout à fait. Tout à fait, mais ça, j'ai pas besoin d'en être convaincue.
Vous l'avez remarqué, vous aussi. D'accord.
Je l'ai remarqué et je suis souvent attristée de voir que pour un père, il n'y a que la judiciarisation et des combats très longs pour être reconnu à sa place, tout simplement.
Dites-moi, madame qui avait travaillé en tant qu'expert psychologue, comment se fait-il qu'aujourd'hui nous ayons autant de retours sur des enquêtes qui comprennent beaucoup d'erreurs, qui sont fausses, qui ne conviennent pas, qui sont orientées ? Un de vos collègues, Monsieur Poussin, Gérard Poussin, que vous connaissez peut-être, qui a écrit de nombreux ouvrages, nous disait que c'était en grande partie à cause de la faible rémunération et puis de la surcharge de travail de ces enquêtes, qui faisait que lorsqu'on donne 300 ou 400 euros à quelqu'un qui est déjà en activité, eh ben effectivement, faut pas s'étonner que le rapport arrive uniquement un an plus tard. Mais vous, de l'intérieur, avez-vous l'impression que il y a un problème avec ces expertises psychologiques, et pourquoi, et comment on pourrait améliorer tout ça?
Alors là, c'est pas très... effectivement, je n'ai jamais caché.
C'est pas très gentil, c'est vrai, je suis désolée.
Je n'ai jamais caché que j'étais très mal payée. Moi, les dernières expertises que j'ai faites, c'était en 2013, c'était 173 euros.
C'est lamentable.
D'accord. Ok. Ma ligne de conduite, elle était simple. À partir du moment où j'avais accepté le travail, je le faisais du mieux que je pouvais.
Je comprends.
Et j'ai encore des collègues qui fonctionnent comme ça.
C'est entièrement à votre honneur.
Voilà, je suis entourée de collègues qui me disent, qui tiennent le même discours.
Pour le faire correctement, pour le JAF, là, il faut rencontrer la mère seule, il faut rencontrer la mère avec l'enfant, il faut rencontrer le père seul, il faut rencontrer le père avec l'enfant, ça fait au moins 4 rencontres, et puis il faut
réfléchir à tout ça,
si je comprends bien.
Attendez, là je parle d'expertise pour les assises.
Ah ok,
les assises, voilà. Par contre, pour les JAF, c'était rémunéré plus, effectivement, plutôt dans les 300-400 euros, et en tout cas, les quelques expertises pour les JAF que j'ai faites à La Réunion étaient payées par les parents.
Oui, parce qu'ils n'étaient pas l'aide juridictionnelle.
Voilà, c'est ça. Donc là, c'était un gros travail, effectivement, on va dire, mieux rémunéré. Mais c'est un travail énorme. Alors après, je sais, malheureusement, parce que quand j'allais aux assises, j'entendais mes collègues experts, je sais que, bon, il existe des experts, ils font du copier-coller. Et ça, c'est les assises, hein, c'est pas
les
gens.
Même aux assises, on retrouve ça.
Eh ben, des avocats, même c'était dans les journaux à La Réunion à une époque.
Ben, je sais bien, je comprends bien.
Ouais. Ça, moi, je trouve ça... en plus, ce sont des... En général, ça venait de la part de médecins psychiatres. Enfin, j'en ai vu, en tout cas. Et je n'ai jamais compris, en fait.
Vous, de l'intérieur, vous confirmez ce manque de moyens des institutions?
Oui, moi, j'ai connu l'époque au tribunal de Saint-Denis. Ils n'avaient plus de papier ou d'encre pour mettre dans les photocopies.
C'est hallucinant. Quand on gère...
Il y avait manque de moyens. Mais parce que ce n'est pas une priorité.
Non, mais c'est fou. Qui a décidé que ce n'est pas une priorité? Qui a décidé ça? C'est pas vous-même. C'est pas son palais.
Ce sont les politiques. Je pense que ce sont les politiques. Je pense que ce sont les politiques.
Demandez aux gens dans la rue si jamais c'est une priorité ou pas de s'occuper des enfants et des victimes. Ils vont vous répondre. Hein. C'est,
bon. Ah, je sais bien. Mais c'est pas monté jusqu'en haut, ça. Ça, c'est pas monté jusqu'en haut.
D'accord. Bon. Ok. Bien, Madame Dominique Mas, dites-moi, avez-vous une actualité, des projets, des choses qui se profilent devant vous ?
Pas spécialement. J'ai une séance dédicace bientôt en février. Je suis très contente. Et puis surtout, je travaille toujours et ça, c'est passionnant. C'est tout.
Ben écoutez, si vous avez un nouvel ouvrage, vous pouvez en parler, ou si vous voulez prendre la parole sur une actualité ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, vous serez la bienvenue.
Nous
remercions beaucoup de votre temps, vous avez consacré une heure, nous le prenons à sa juste valeur. J'espère que votre discours aidera les gens qui sont impliqués dans cet environnement. Et puis voilà, excellente continuation à vous et merci beaucoup énormément. Merci.
Eh bien, bonne continuation aussi à vous.
Au revoir.
Au revoir.
J'ai la flemme.